foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en Formule Magazine. Au menu cette semaine, Olivier Lefebure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film, nous parlera notamment du film Queen and Slim. De son côté, François Gloutenay, journaliste à l'agence de presse Présence, nous proposera un retour sur les grands thèmes de l'actualité religieuse des dernières semaines. Autre chronique, celle de Jonathan Guilbeault, éditeur chez Novalis, qui nous parlera du 5e album solo de Kevin Morby, album qui a pour titre « Oh my God ». Mais tout d'abord, nous vous proposons une rencontre avec le père Oblat Ali Nameka, un missionnaire originaire du Nigeria qui œuvre aujourd'hui sur la Côte-Nord. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Alors qu'autrefois, les déplacements des missionnaires chrétiens se faisaient majoritairement des terres européennes et américaines vers les terres africaines et asiatiques, un certain renversement peut être observé depuis quelques années. En 2015, le World Christian Database évaluait à environ 400 000 le nombre de missionnaires chrétiens sillonnant la planète. Le père Oblat Ali Nameka est un de ceux-là. Originaire du Nigeria, le père Nameka a suivi une formation de 10 années qui l'auront fait passer par le Cameroun et l'Italie. Puis, en 2014, c'est le grand saut, Nameka arrive sur la Côte-Nord. Aujourd'hui, il est prêtre en alternance dans les communautés Innu d'Ikwanchit et de Matemikush Lac John, près de Schefferville. Il couvre ainsi, par avion, par train et en voiture, un territoire immense afin d'assurer une présence auprès de membres d'un peuple autochtone si loin de son pays d'origine et si proche à la fois. J'ai donc le bonheur d'avoir à mes côtés le père Ali Nameka que nous avons attrapé lors d'un récent passage à Montréal. Père Nameka, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, Nameka, c'est un peu une question classique, mais en même temps toujours fascinante. Comment émerge en vous le désir de la vie consacrée? Pourquoi avoir choisi la vie religieuse et la vie missionnaire de surcroît?
Oui, c'est vrai, c'est classique, mais c'est toujours unique.
Oui, c'est ça.
Dans le sens où chacun fait une expérience personnelle. Et donc, pour moi, l'idée d'être missionnaire date de longtemps. Et en réalité, j'avais 11 ans quand l'idée est venue chez moi. Et donc, quand je pense à cela aujourd'hui, je me demande, mais comment ça pour arriver qu'une idée qui naît à 11 ans
oui,
puisse se fructifier aujourd'hui. Et en réalité, c'est à l'école, moi j'ai eu ma vocation, je dis souvent j'ai eu ma vocation sur le banc d'école. Et depuis ce temps-là, j'adore le banc d'école. Et donc, on parlait de l'histoire des missionnaires. Vous savez, au Nigeria, le Nigeria était évangélisé par les Spiritains, d'abord des Français, ensuite des Spiritains irlandais. Et donc, parlant de ce missionnaire qui était venu chez nous, qui, avec le temps, sont naturalisés dans, si j'utilise le langage courant,
faut passer la communauté.
Oui, ouais. Dans le sens où on les appelait le nom de chez nous. Ouais. Quand on grandissait, on pensait qu'ils venaient de chez nous parce qu'ils avaient un nom de chez nous. Mm-hmm. Et donc, quand j'écoutais de ces gens qui quittent leur pays pour venir chez nous, je me suis dit, ça peut être bon de faire de même. Mm. Mais étant enfant, je ne savais pas la portée de mon rêve.
Oui.
Et donc, avec le temps, je me suis retrouvé ici aujourd'hui. Et donc, c'est né dans,
sur les bancs d'école à 11 ans.
À 11 ans.
Quand même, vous avez de la suite dans les idées, en tout cas, ça c'est sûr. Et comment un père Oblat, originaire du Nigeria, en vient à œuvrer chez les Innus de la Côte-Nord au Québec?
Ouais, ça aussi c'est...
Il y a quelque chose qui se passe là.
Ouais, ça c'est une autre question classique.
Ouais.
Mais c'est pas aussi classique que cela. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, j'écoute les gens qui disent le retour de pendule.
Ouais.
Je dis, c'est pas le retour de pendule. Pourquoi je le dis? Parce que l'Église est une famille. Et dans la famille, on essaye de distribuer la force. Il y a eu un temps quand l'Église avait plus de missionnaires venant du Nord. Aujourd'hui, l'Église du Nord a moins de missionnaires. Est-ce que quand on repartit de mouvement, est-ce qu'on peut parler de retour de pendule? Parce qu'on parle de retour de pendule, c'est comme si on vient rembourser, on vient faire ce qu'on a fait pour nous. Or, dans une famille, il n'y a pas qui a fait aujourd'hui, qui a fait hier. Mm-hmm. Ce qui est là, c'est que la famille a besoin d'une main d'œuvre de ce côté, on y va, on a besoin de l'autre. Et donc, moi, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je fais partie d'une famille, Oblat, qui travaille dans plusieurs pays dans le monde. Nous sommes dans pas moins de 65 pays au monde, parmi lesquels se trouve Canada, et surtout se trouve chez des Innus, qui était parmi les premières missions des Oblats, et que, pour moi, est une mission sacrée et que je ne peux pas laisser ou voir mourir juste parce que le Nord ou le Québec n'a plus assez de missionnaires. Et donc, l'idée de faire grandir ou de continuer à faire travailler la famille Oblat dans un milieu comme ici, ça me tient au cœur. Oui. Donc, je suis venu non pas pour rembourser, mais parce que je fais partie d'une famille et dans la famille, on essaie de travailler là où on a besoin de nous. Hmm.
Et vous dites, Nameka, que l'univers autochtone n'est pas si éloigné de l'univers nigérian. En quoi ces univers, pourtant si éloignés géographiquement, peuvent-ils être également si proches?
Oui, ça, c'est une très belle question. Parce que je dis souvent, je suis parti, moi je disais à quelqu'un, je suis parti si loin pour me retrouver. Partir de l'Afrique, du Nigeria, de l'Est. Pour me retrouver au nord.
En même temps, on comprend tellement mieux parfois notre lieu d'origine que lorsqu'on s'en éloigne.
Oui, et justement, c'est ce que je le savais d'une manière théorique, mais le vivre ici, ça change tout ou ça vient confirmer quelque chose que je connaissais. Ça vient me renforcer parce que quand j'arrive chez les Innus, je connais leur histoire dans le sens où ils ont connu la colonisation. J'en ai connu, mon peuple l'a connu. Ils ont difficulté à s'identifier, à se réconcilier avec tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe, ou qui se pose la question sur l'identité, l'authenticité de la langue et tellement de choses. C'est tant de questions que je me pose. Et donc, l'univers autochtone ne connaît vraiment pas la géographie. C'est pas lieu à une localité. C'est un univers qui englobe et qui va loin de notre définition du nord ou de l'ouest. L'univers autochtone est c'est vraiment unique, que ce soit ici, que ce soit là, l'univers autochtone reste l'univers autochtone. Et donc, ici, chez les Innus, je retrouve ma langue, je retrouve ma culture, je retrouve mon identité, autant de choses qu'on peut nommer.
Les valeurs, le rapport à la famille, vous évoquez notamment le rapport à la terre.
Tellement. Oui. Il y en a tellement de choses que je retrouve aujourd'hui dans ce milieu.
C'est fascinant. Et qu'est-ce qui caractérise votre approche au sein des communautés Innus que vous accompagnez? Qu'est-ce qui est au cœur de votre action?
Oui. Qu'est-ce qui est au cœur de mon action? Vous savez, je me suis retrouvé encore à relire la Bible, à relire mon histoire comme chrétien, à me poser la question sur l'évangélisation et sur la christianisation. Je me suis retrouvé en train de me poser la question sur le rapport, sur la culture et beaucoup d'autres choses. Et qu'est-ce qui me relie vraiment dans cet univers? C'est que je me suis rendu compte que des choses que je voyais qui n'allaient pas dans ma culture, je les retrouve aussi ici. Et quand je regarde la trace, je me rends compte que réellement, ils ont tous les mêmes origines. Mm-hmm. C'est le rapport avec l'autre. L'autre, quand je parle de l'autre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a toujours une rencontre entre deux cultures. Si on ne fait pas attention, il y a une culture qui cherche à dominer l'autre, sans souvent le vouloir. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, certaines cultures cherchent de s'adapter, mais en s'adaptant, soit il perd son identité, soit il perd son autonomie. Et tout d'un coup, à un certain moment, on ne peut pas vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Et donc, on recherche notre identité, on recherche notre authenticité. Et donc, qu'est-ce qui me relie? C'est que la recherche de l'identité, la recherche de l'identité humaine ou de quelqu'un d'un autochtone, c'est la quête de sens même que je me pose. C'est la même quête de sens qui se pose. Oui. Et donc, étant là, je me suis dit, oui, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses qu'on s'attend. On a beaucoup de choses qu'on peut chercher ensemble. Et donc, je me suis rendu compte que je ne suis pas là pour évangéliser seulement.
Oui,
je suis là pour marcher, pour cheminer avec une communauté. Et donc, je commence à redéfinir ma question, même ma définition de foi, ma définition de relation avec l'autre, même mon appartenance à l'Église, je commence à le redéfinir parce que je me suis rendu compte que l'univers est plus grand que je le croyais.
Donc, si je vous comprends bien, c'est vraiment une approche de la présence. Être là, il y a une certaine gratuité là-dedans. Je suis là, je suis avec vous, on chemine ensemble, je vous accompagne. Et vous m'accompagnez.
Ça, c'est très bien dit. Être là. Ouais. Mais ce que, vous savez, dans notre monde moderne, être là pour faire allusion à une sorte de lassitude, d'être comme si on ne fait rien.
Ouais.
Mais souvent, on n'a pas besoin de faire tellement de choses. On a besoin d'être là auprès de l'autre, être avec l'autre et chercher à se comprendre, chercher à se découvrir. Et justement, une fois qu'on s'attend, une fois qu'on sait qu'on cherche tous les mêmes choses, une fois qu'on se rend compte qu'on s'en va dans la même direction, peut-être le dialogue commence à naître.
Oui.
Peut-être on commence à s'entraider, à se chercher qu'est-ce que j'ai que l'autre n'a pas. Qu'est-ce qui se trouve dans d'autres cultures qui n'est pas dans le mien? Et quelle est la difficulté que l'autre se pose aujourd'hui, comme je me suis déjà posé, les questions que l'autre se pose aujourd'hui, que je me suis déjà posé hier? Comment j'ai fait pour surpasser cela, pour résoudre ce problème? J'ai peut-être dit, à partir de mon expérience, je pourrais aider l'autre. Et peut-être à partir de l'expérience de l'autre, je pourrais aussi m'aider.
Oui.
Et donc, être là, c'est d'abord la première démarche. Être là, à l'écoute de l'autre.
Oui, c'est
plus important. C'est ça, être missionnaire.
C'est
d'être
disponible.
Avec eux.
Ouais.
Être disponible ouais. avec eux.
Et parlez-nous, Nameka, de la foi telle que vous l'observez chez les Innus. Est-ce que les communautés où vous œuvrez cherchent, je dirais, un certain équilibre entre spiritualité traditionnelle et foi catholique? Parce qu'on s'entend, ce sont deux éléments qui viennent de deux lieux différents. Comment trouver cet équilibre-là? Comment avoir une spiritualité qui intègre ces différentes influences?
Ça aussi, c'est comme si tout d'un coup, chaque chose, je vois quelque chose de nouveau. Et peut-être c'est aussi le fait d'être avec des autochtones que je commence à poser des questions,
ouais.
à poser des questions mm-hmm. même aux questions. L'idée de voir le monde d'une manière binaire,
ouais.
c'est-à-dire foi catholique, foi traditionnelle, mentalité catholique, mentalité autochtone. Et dans le monde autochtone, en réalité, le monde n'est pas binaire. C'est englobant, c'est holistique.
Mm-hmm.
Et donc, dans le sens où en réalité, est-ce qu'il se pose des questions sur les foi catholiques d'autres? C'est justement là où on a eu le problème. C'est qu'on venait voir des gens et puis on voulait proposer quelque chose ou autre en les faisant sortir de leur milieu.
Mm-hmm.
Et on peut les nommer comme on veut, mais à la fin, on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas. Le problème de l'évangélisation que je dis, que ce soit chez moi, que ce soit des autochtones, c'est qu'on a au lieu d'évangéliser, on a christianisé. Qu'est-ce que j'entends par là?
Oui.
Évangélisation, c'est amener des gens à découvrir Jésus à travers des évangiles. La christianisation, c'est amener des gens à appartenir à un groupe religieux qui s'appelle des chrétiens, le christianisme. Et donc, dans beaucoup de temps, ce n'est pas moi qui l'invente, on le sait, qu'au Québec ou dans beaucoup d'endroits, il y avait cette course au baptême, ou quand on baptisait tel peuple, il devenait catholique ou il devenait anglican ou d'autre. C'est pas l'évangélisation cela, ça c'est christianisation. C'est pas seulement ici, je connais cela même chez nous, au Nigeria ou en Afrique. Les missionnaires, je les comprends très bien, leur connaissance de l'anthropologie, leur connaissance de la sociologie était limitée. Et donc, ils ne faisaient que ce qu'ils savaient. Mais aujourd'hui, il s'avère que ce n'était pas la meilleure manière. C'est-à-dire, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait peut-être entrer chez des gens, comprendre ce qu'ils vivent, peut-être chercher les valeurs évangéliques qui existent dans leur milieu, essayer de les lever. Et peut-être s'il y a des valeurs qui sont anti-évangéliques, je ne peux pas dire anti-chrétiens, parce que dans le christianisme, il faut peut-être se dire qu'est-ce qui est évangélique et qu'est-ce qui est européen.
Mm-hmm.
Ça, c'est un autre débat.
Ouais.
Mais à la fin, c'est peut-être que, dis-nous, est-ce qu'il se pose des questions? Il se pose des questions peut-être de savoir est-ce que notre identité était tenue compte? par des gens qui ont amené le christianisme. Mm-hmm. Parce que je suis dans des communautés où les gens sont dans la spiritualité, où les gens sont à l'église. Et d'ailleurs, dans le christianisme, il y a tellement de spiritualité. On parle de spiritualité oblate, de spiritualité oblate comme chez nous. On parle de spiritualité ignatienne, on parle de spiritualité mariale, on parle de spiritualité. Donc la spiritualité n'est pas une religion. Je dis aux gens, si on peut être chrétien catholique et être et se participer dans la spiritualité autochtone, parce que la spiritualité n'est pas une religion, c'est une manière de relationner. Et donc, être catholique à partir de ma base comme autochtone, à partir de ma spiritualité comme autochtone, c'est très important. Oui, ils cherchent à naviguer entre cela, mais pas parce qu'ils ont l'habitude de le faire, et justement, c'est ça la difficulté, parce qu'on leur pose des schémas qui n'entrent pas dans leur manière, dans leur mode de voix.
Il y a l'exemple du tambour, entre autres, que vous avez déjà évoqué dans une autre entrevue, donc vous disiez, mais pourquoi ne pas utiliser le tambour dans une cérémonie, dans une célébration catholique?
Ouais, c'est fou.
Pourquoi s'en priver?
Oui, parce que c'est moi, quand j'ai dit c'est fou, c'est pas... Et je comprends tous ceux qui sont pour ou contre. Ils ont les raisons. Mais je le dis parce que je connais dans ma culture. Il y a un certain moment, on ne peut pas utiliser le tam-tam dans la religion catholique ou chrétienne. Parce que... Pourquoi? Parce que c'est diabolique. Aujourd'hui, on l'utilise et on voit que ça nous fait prier. Et donc, j'ai dit, les tambours sont sacrés. Tout le monde le sait. On le respecte. Or, nos célébrations sont sacrées. Pourquoi l'objet sacré ne devrait pas se retrouver dans un lieu sacré? Et pourquoi on peut utiliser l'orgue? Pourquoi on peut utiliser la guitare et beaucoup d'autres choses dans le milieu chrétien? On ne peut pas utiliser ce qui est autochtone. C'est justement parce que pour des jeunes, ils ne trouvent pas la difficulté en cela, avec cela. Mais des aînés, parce qu'on les a fait comprendre que ce diabolique, ça n'a pas la place dans l'Église. Donc moi, je me dis aujourd'hui, on ne peut pas l'imposer à ceux qui soient utilisés, parce que ce serait aussi fait la même erreur qu'on a c'est fait ça. Avant. Mais peut-être en parler. Fais voir aux gens que c'est nécessaire, c'est important. Parce que ça nous permettrait de prier. Oui. Déjà, certaines communautés le font. Des Atikameks souvent vont prier avec, vont faire des chorales avec des. Et quand vous les écoutez, vous n'avez pas besoin d'être croyant pour savoir qu'il y a quelque chose de fort en cela.
Il y a une
cela.
Expérience là, qui se vit.
On
là.
Vit quelque chose c'est de ça. Fort. Oui. Et donc, pourquoi pas permettre aux gens de vivre ces expériences? Oui. Oui.
Père Ali Nameka, vous êtes au Bla et vous œuvrez auprès des communautés Innu. Même si vous êtes originaire du Nigeria, vous devez composer avec l'héritage des pensionnats autochtones. Vous devez composer aussi avec les blessures du passé. Et là, je pense notamment à l'affaire Jovenot qui a dû secouer les communautés où vous êtes présent. Devant cet héritage, devant ce passé-là, comment ménager des voies de guérison, des voies de dialogue?
Oui, c'est... Il faut dire que... Je dis souvent que notre mission, souvent, on avance... 10 pas et puis on recule à 12 pas. Pourquoi? Parce que l'histoire nous rattrape toujours. L'histoire nous rattrape et ça me pose beaucoup de questions. Non pas parce que je suis blanc, oui, c'est important parce que je suis blanc, mais d'abord parce que je suis humaine.
Oui.
Parce que j'ai un cœur, j'ai une conscience. Parce que je sais que l'histoire, quand on regarde l'histoire, quand on lit l'histoire, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, l'histoire est tachée des choses qu'on ne peut même pas comprendre pourquoi ça devrait être. Et donc, souvent, les gens me posent des questions et je réponds en disant « Oui, moi, je suis prêtre et donc, je suis quand même héritier de l'histoire du christianisme. » Mais souvent, il y a des gens qui vont me dire « On les a fait. » Je dis « Qui sont les « on » ? La société tout entière devrait avoir honte de la relation qu'on a eue avec le peuple autochtone, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Que quelqu'un me dise, oui, les prêtres ont fait. Je dis, les prêtres ne sont pas des surhumains, ils ne sont pas nés dans la forêt, ils viennent des familles. Mais je connais des familles, je connais des gens qui disent, oui, on les a. Mais je dis, qui sont, c'est souvent des Canadiens. Pourquoi est-ce que moi, comme Nigérien, parce que je suis prêtre, arrivé au Canada il y a 5 ans, je dois absolument, ce qui est juste, me sentir quand même concerné par ce qui s'est passé. Pourquoi quelqu'un qui est Canadien, Québécois, et qui appartient dans un gouvernement qui aurait participé dans toutes ces histoires, soit consciemment, soit parce qu'ils ont fermé les yeux. Pourquoi quelqu'un de cette culture ne peut pas se sentir aussi concerné par ce qui est arrivé? Moi, je m'attends à ce qu'on arrive à ce qu'on commence à dire, ce que nous les avons fait. Mm-hmm. Nous, non, pas des prêtres seulement. Parce que dans l'histoire, tout le monde est content. Quand on parle de ce que les missionnaires ont fait de positif, tout le monde se frappe le poitrine en disant les Canadiens ont amené telle, telle autre chose. Il faut qu'on assume aussi même des erreurs de passé. Et donc, et puis autre chose, c'est que ça me fait mal quand je attends, les gens disent, l'Église a fait telle ou telle chose. Je dis, l'Église, c'est qui? C'est drôle de voir que Canada ou Québec, dans le monde entier, même aussi, quand on parle d'Église, j'attends même les prêtres qui disent l'Église. Et quand ils parlent de l'Église, ils parlent des évêques. Je dis, c'est faux. L'Église n'appartient ni aux prêtres, ni aux évêques, oui, ni au pape. L'Église, c'est nous. Et donc, si l'Église a commis de fautes à travers ses représentants, il faut que tout le monde soit concerné. Et donc, la guérison, la voie de guérison ne viendra pas seulement à travers le dialogue entre les autochtones et des religieux, et des communautés religieuses ou des prêtres. Ça viendra quand tout le monde se dira, oui, nous avons tous failli. Consciemment, on est tous responsables.
On est tous et toutes concernés.
Oui, on est tous concernés. Ben oui. Quand on arrive à cela, les gens, on dirait un dialogue. Mais tant qu'on continue à jeter des pierres, à dire c'est telle ou telle autre personne, on ne peut pas aller loin.
Oui.
Donc, voici, pour moi, la guérison commencera quand on se rendra compte que la faute d'une personne est la faute de tout le monde.
Aline Ameka, j'ai le goût de vous demander en terminant, vous avez évoqué que l'Église, ce n'est pas que les évêques, ce n'est pas que la structure. Alors, j'ai le goût de vous demander, ben, va ressembler à quoi, selon vous, l'Église de demain?
L'Église de demain, c'est un sujet qui m'intéresse.
Donc, vous pouvez rêver, là. Vous avez le droit de rêver, là.
Ouais, je l'adore.
Pas de limite, là.
Vous savez, je viens d'un pays où l'Église est encore en plein essor, où l'Église a encore sa gloire, où l'Église grandit. Arrivé au Canada, au Québec, je vois l'Église qui patine. L'Église qui est en train de chercher. Au départ, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Je suis heureux de trouver une Église qui se cherche, qui cherche à redéfinir sa vision. Une Église qui cherche à se dépouiller du matériel pour se retrouver, pour ce qui est authentique. Ma vision d'Église de demain, moi, je suis. Des gens se plaignent que l'Église souffre. J'ai dit, l'Église est en douleur d'engendrement.
Mm-hmm.
L'Église se naît au Québec. Elle naîtra. Elle sera authentique. L'Église sera Église. C'est pas ce qu'on... L'Église ne sera pas des institutions. Oui, les gens... J'écoute les gens qui disent, oui, qui jugent parce qu'on n'a plus de prêtres. C'est dur, ça. Oui, je sais, on peut faire venir des missionnaires d'ailleurs. Moi, j'en fais partie. Mais c'est pas une solution. C'est pas, on ne peut pas sauver l'Église en sauvant les missionnaires, en sauvant la vocation religieuse ou sacerdotale. Non, c'est en sauvant l'Église elle-même. Il faut regarder la fondation. Peut-être se demander, mais qui est l'Église? On s'est dit aux gens, on s'est laissé voler notre Église par les institutions. On s'est volé notre Église, s'est laissé voler notre Église pas des religieux. On s'est laissé voler notre Église, pas des évêques. On s'est laissé voler notre Église, pas des responsables. Or, l'Église, c'est nous tous. Ça ne les appartient pas. Ils font partie. Et d'ailleurs, ils sont au service du peuple de Dieu. Ils sont peuple de Dieu. Et donc, moi, la vision de l'Église de demain, c'est une Église où on sera des frères, où on sera humbles, où on sera pas nombreux, mais ceux qui se diront chrétiens le seront. Parce que l'authenticité sera l'idéal. Est-ce qu'il y aura de vocation religieuse? Peut-être que ce qu'on en connaît aujourd'hui ne sera pas demain. Il naîtra d'autres. Est-ce qu'il y aura autant de prêtres dans la société? Peut-être qu'on n'a même pas besoin de cela. Peut-être qu'il y aura d'autres formes. Et donc, quand les gens me disent, il faut peut-être ordonner des femmes et ordonner des hommes mariés, je dis, oui, mais ce n'est pas la solution. On continue à faire employer des méthodes palliatives. Oui, on donne des gens dans une structure qui ne fonctionne pas. Ils entrent là-bas, ils tombent aussi dans le clercarisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche à poser la question, à se demander qui est vraiment chrétien. Et d'ailleurs, moi je dis, il faut regarder le baptême. On est tous envoyés, on est tous missionnaires. Parce que l'on devient missionnaire une fois qu'on est baptisé. On est baptisé et envoyé. Et donc, quelle est ma vision de l'Église de demain? C'est une Église simple, authentique. Mais une Église peut-être qui sera différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce sera une Église vraie et qui s'ancre sous le Christ.
Père Ali Nameka, un grand, grand merci pour votre passage en studio aujourd'hui. C'était fascinant, intéressant,
merci.
Inspirant aussi. Merci beaucoup.
Merci à toi, Mathieu. C'est un plaisir.
Alors, je rappelle que Ali Nameka est missionnaire Oblat d'origine nigériane et qu'il est prêtre en alternance dans les communautés Innu d'Ikwanchit et de Matimekush Lac John, près de Shefferville, sur la côte nord. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. Restez avec nous, suivra la chronique 7e art d'Olivier Lefebvre. Avec moi en studio, Olivier Lefebure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Médiafilm. Dans le cadre de cette chronique sur le 7e art, nous discuterons notamment de deux longs-métrages qui traitent du fait religieux et ce, de deux manières bien différentes, soit le film américain « Les deux papes » et le long-métrage français « Les éblouis ». Le premier est déjà sur nos écrans et le second y sera dès le 13 décembre. Mais tout d'abord, parlons du film « Queen and Slim », drame politique et social de Milina Matsoukas, à l'affiche depuis le 29 novembre. Olivier Lefebvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, le film « Queen and Slim » fait beaucoup, beaucoup jaser chez nos voisins du Sud et un simple résumé de l'histoire derrière ce film nous permet de comprendre pourquoi.
Oui, si... allons-y avec effectivement le résumé. C'est l'histoire d'un couple... fin vingtaine, début trentaine. C'est même pas un couple, c'est deux jeunes qui se rencontrent pour une première fois, qui ont une première date, et ils rentrent chez eux tranquillement, ils sont en voiture, et ils sont arrêtés par la police, et un policier raciste. Ça dégénère, en état de légitime défense, le jeune homme tue le policier, et à partir de là, c'est une fuite à travers les États-Unis, parce que on est en présence de deux jeunes afro-américains qui viennent de tuer un policier blanc. Donc leur destin est tracé, ils sont forcément coupables.
Oui, et un élément qui frappe dans ce film-là, c'est que cette décision de fuir, il y a ce sentiment que c'est à peu près impossible de bien se sortir de cette situation-là. Et d'ailleurs, le personnage féminin, Queen, elle est avocate.
Oui, alors c'est ça qui, au départ, est, je dirais presque, est un peu déstabilisant, et on se dit même, c'est absurde, puisque elle est avocate, ça fait déjà plusieurs années qu'elle pratique, donc elle sait c'est quoi la loi.
Elle connaît le système, là.
Oui. Oui, elle connaît le système, sait comment ça fonctionne, elle est capable de défendre, et c'est elle qui dit, on fuit, on part. Ouais. Alors qu'elle est avocate, le meurtre s'est fait en état de légitime défense, puisqu'on le voit très bien, donc normalement, elle devrait être en mesure de dire, ben, oui, c'est de la légitime défense, on va présenter notre cause, on va se défendre et on va gagner. Et elle dit non, on fuit parce que on est foutu. On est tout simplement, nous sommes deux jeunes afro-américains, on est noirs, on vient d'abattre un policier, donc on est forcément coupable. Même si on prouve tout le contraire, on a déjà toute la machine judiciaire contre nous. Oui. Et c'est ça qui est très déstabilisant parce que elle est avocate. Elle aurait été vendeuse en magasin ou coiffeuse, on aurait pu dire oui, elle connaît pas la loi, elle a peur.
Sur le moment de panique, oui, on s'enfuit.
Non, c'est même pas un moment de panique.
C'est une décision réfléchie
ouais. qui semble absurde. Mais elle sait que finalement, ils sont déjà coupables.
Oui, et donc il y a un sentiment de fatalité. Là. C'est ce que le film, entre autres, vient traduire. C'est très sombre là, comme diagnostic.
C'est un film qui est très sombre, effectivement, parce que à partir du moment où ils prennent la décision de fuir, leur destin est tracé. Oui. Leur vie est finie et plus ça avance, plus la tension monte parce que petit à petit la police se rapproche, on le sent, donc ils sont de plus en plus traqués et on sait très bien qu'à la fin ça ne peut pas bien se terminer. Oui. Je veux pas vendre le punch, mais quand on connaît, quand on sait ce qui se passe aux États-Unis, l'état d'esprit actuel, le racisme ambiant qui monte, la police qui tire très facilement sur tout ce qui bouge, on comprend que leur destin est tracé.
Oui, oui. Il y a aussi, ce film vient dépeindre une réalité qui est le deux poids, deux mesures. Et d'ailleurs, la réalisatrice en entrevue pour le New York Times, si ma mémoire est bonne, elle dit « Vous voulez changer le monde, vous voulez devenir un président et vous êtes noir, mais vous devez être Barack Obama. Vous voulez être président et vous êtes blanc, vous pouvez être Donald Trump. » Donc, ça illustre cette espèce de deux poids, deux mesures.
Hein. Oui, parce que les Afro-Américains, effectivement, j'ai envie de dire comme les femmes à une époque, il faut qu'ils soient meilleurs que les autres, meilleurs que n'importe quel homme blanc moyen, s'ils veulent s'en sortir. Et le film nous fait d'ailleurs traverser à travers, c'est un road movie à travers l'Amérique profonde, l'Amérique pauvre. C'est aussi, quelque part, ce film-là, ça aussi qui est bien, c'est un hommage à la solidarité, parce que au cours de leur fuite, ils vont rencontrer un certain nombre de personnes qui vont les aider, et ils deviennent aussi, quelque part, des modèles. Alors, des modèles un peu négatifs, parce que ils ont quand même tué un homme, même si c'est en état de légitime défense, ils ont tué un homme, et ils sont pris dans aussi cette... Eux, ils fuient, ils veulent... Ils aimeraient sauver leur peau. Et d'un autre côté, les Noirs qui les voient les prennent en modèle en disant « Vous nous avez vengés, oui, la police est constamment en fait de la brutalité envers nous, puis vous, vous êtes défendus, vous nous vengez. » Ce qui est très ambigu.
Oui, oui, tout à fait. Et il y a cette réalité médiatique américaine aussi qui est un peu abordée dans le film. Il y a une certaine réflexion sur un certain biais médiatique.
Oui, et qui ramène aussi au fait que quand c'est un blanc, c'est une chose, quand c'est un noir, c'est autre chose. Oui. Quand les médias parlent d'eux, c'est toujours deux jeunes Afro-Américains qui sont en fuite, qui ont tué un policier. Donc, ils sont dangereux. S'ils sont dangereux, ils sont armés. Et c'est à aucun moment, et pourtant la scène du meurtre a été filmée de la voiture de la police, donc on voit très bien ce qui s'est passé, mais à aucun moment les médias ne remettent en cause le travail de la police. C'est toujours deux noirs en fuite qui sont dangereux. Donc là aussi, on voit que le travail des médias, s'il est mal fait ou s'il est biaisé, ne fait qu'amplifier une situation et ne fait qu'enfoncer ces deux personnes-là vers une fin dramatique.
Oui. Et quelle cote a été donnée au film Queen and Slim par l'équipe de Mediafilm? Je rappelle que le système de cotes de Mediafilm, dans ce système, la cote 1 renvoie à un chef-d'œuvre et la cote 7 est donnée à un film jugé minable.
Le film a été coté 3, très bon.
Parfait. Alors, je rappelle que Queen and Slim est présentement à l'affiche. Parlons maintenant du film Les Éblouis, qui arrivera sur nos écrans le 13 décembre. Il s'agit du premier film de la réalisatrice Sarah Succo. Nous suivons ici une famille ordinaire qui refait sa vie dans une communauté chrétienne, une communauté qui révèle progressivement son vrai visage.
Oui, et c'est pas un visage très très beau. L'histoire en deux mots, c'est effectivement une famille, le père, la mère, lui il est instituteur, elle est comptable, actuellement au chômage, ils ont trois enfants, et ça se déroule à Angoulême, petite ville de province en France, et ils intègrent une communauté religieuse qui est basée sur le pardon, le partage, le bénévolat, l'entraide. Donc on démarre vraiment dans une très belle atmosphère où presque tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais petit à petit, ce couple, en intégrant cette communauté, il se laisse embrigader par un prêtre qui est le chef de cette communauté. Et au cours du film, tranquillement, on découvre l'influence de plus en plus néfaste de cet homme sur non seulement la famille, mais sur l'ensemble de sa communauté. Et là aussi, c'est très troublant parce que on part au départ avec de très belles images, de très bonnes intentions. Quand ils arrivent, on les voit à la fin de la messe, on les invite à un repas, et puis on leur dit « Ah ben, venez nous aider, on va donner de la nourriture. » Donc c'est un côté très beau, très généreux, mais ce que voulait dénoncer justement Sarah Succo, parce qu'elle, elle l'a vécu, c'est la dérive sectaire de certaines religions. Elle ne s'attaque pas à la religion catholique au sens strict du terme. Ça aurait pu être dans n'importe quel autre type de religion. Ce qu'elle veut montrer, parce qu'elle, elle l'a vécu pendant une dizaine d'années, elle était dans une communauté comme ça avec ses parents, c'est vraiment la dérive sectaire de certaines religions, de certains groupes.
De certains segments. Hein,
de vraiment, certains segments, oui. Qui prennent de l'emprise sur les gens au point où les gens n'ont plus aucune matière à réflexion. Et dans le film, on voit des choses qui nous semblent totalement absurdes, mais tellement vraies. Comme par exemple, ils sont à table tous ensemble. Celui qu'ils appellent le berger, qui est leur chef, donc qui est un prêtre, joué par Jean-Pierre Darroussin, qui est excellent. Pour l'appeler à table, ils se mettent à bêler. Parce que
c'est le berger.
C'est le berger, eux, ce sont les moutons. Donc pour l'appeler, ils bêlent. Et sur le coup, on se dit, mais c'est totalement
absurde. De l'extérieur, ça. Ça
de l'extérieur, c'est totalement... C'est alors, ils expliquent ça de façon très normale. Bah oui, c'est le berger, on a les moutons, on l'aime. Mais c'est des petits détails comme ça qui montrent que ces gens-là se sont laissés embrigader, se sont laissés enrégimenter, puis ils sont plus capables de réfléchir.
Oui, oui. Et dans le fond, elle vient illustrer les mécanismes de dérive sectaire, les mécanismes d'une certaine radicalisation.
Oui, oui, parce que au départ, tout est bien. C'est simplement qu'il y a un prêtre, ce prêtre-là, qui n'est jamais d'ailleurs nommé, qui a une emprise sur le monde. Et petit à petit, comme il dit à la famille, la fille aînée fait du cirque. Parce qu'elle aime ça. Puis il dit, ah non, faut pas faire de cirque parce que c'est dégradant pour le corps, puis les vêtements. Non. Ça, c'est un aspect. Plus tard, à un moment donné, la mère dit, ah non, parce que la fille a un petit copain qui arrive pour manger et il a un t-shirt noir. Puis on lui dit, ah non, tu peux pas rester là. Le noir, c'est la couleur du diable.
Donc les interdits s'accumulent.
S'accumulent. Et donc cette jeune fille qui a 14 ans, petit à petit, se rebelle parce que elle comprend pas justement pourquoi on la retire du cirque, pourquoi une couleur, c'est pas normal. Et tout ça fait, c'est ça qui est très bien amené, c'est qu'au début on le voit pas, ça arrive couche par couche et on sent que la famille est engluée et est plus capable de s'en sortir.
Et malgré tout, malgré le propos assez lourd, ben l'espoir n'est pas loin quand même.
Non, le film, contrairement à Queen Slim où ça se termine mal, là ça se termine bien puisque c'est la vraie histoire de façon de la réalisatrice Sarah Succo qui s'en est sortie. Le film se termine où justement la jeune fille fait appel aux autorités et elle va être retirée de la famille et une partie de la communauté va être arrêtée. Donc, il y a un message d'espoir. Et la réalisatrice elle-même est un symbole d'espoir puisqu'elle a vécu une dizaine d'années dans cette communauté-là. Elle s'en est sortie et aujourd'hui, elle est comédienne, elle est réalisatrice. Elle montre que on est capable de s'en sortir.
La résilience.
Oui.
Et quelle cote a été donnée au film Les Éblouis par l'équipe de Mediafilm?
Il a été coté 3, très bon.
Parfait, donc Les Éblouis arrivera sur nos écrans le 13 décembre. En terminant, un mot, Olivier Lefebure, sur le film Les Deux Papes de Fernando Méreyès, une proposition étonnante, alors que Jonathan Pryce incarne le pape François, Anthony Hopkins, lui, joue le pape émérite Benoît XVI dans une œuvre de fiction qui n'est peut-être pas si loin de la réalité au fond.
Oui, parce que c'est évident que ces deux papes-là se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne le sait pas et peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais effectivement, c'est une rencontre imaginaire, peut-être fantasmée de la part du cinéaste Fernando Méreyès. C'est la rencontre entre Benoît XVI, qui est
toujours pape, oui,
qui a des doutes et qui rencontre le cardinal Bergoglio, qui lui va être le futur pape. Et c'est une rencontre totalement improbable, parce que déjà la situation en elle-même est improbable, d'avoir deux papes en même temps.
Voilà.
Personne n'y croyait, pourtant c'est une réalité. Et là, c'est la rencontre entre deux hommes avec deux visions différentes, l'un plus conservateur, l'autre plus moderne. Et donc, c'est un dialogue à la fois entre deux hommes, entre deux conceptions de la religion, entre deux personnalités. Et je ne l'ai pas encore vu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le film est sorti juste là, dans une salle, mais qui va prendre l'affiche, ou l'écran,
ou l'écran.
sur Netflix.
Le
20 décembre, et c'est vraiment, ceux qui l'ont vu, parce qu'il était présenté dans un certain nombre de festivals, ceux qui l'ont vu ont dit que c'était vraiment un très bel exercice de cinéma. Une joute oratoire entre deux grands comédiens et une joute oratoire entre deux papes.
Oui, et le film Les Deux Papes a été coté 3 par l'équipe de Mediafilm. Autre signe qu'il faut voir ce film. Olivier Lefebure, un grand merci pour votre présence en studio aujourd'hui.
Merci Mathieu.
Alors je rappelle qu'Olivier Lefebure est rédacteur et chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Mediafilm. Il nous parlait des films Queen and Slim, Les Éblouis et Les Deux Papes. Consultez le www.mediafilm.ca pour avoir accès aux bandes annonces et aux horaires de ces films. C'est toujours Mathieu Lavigne à la barre de Foi et Turbulence. Restez avec nous, suivra la chronique Actualité religieuse avec François Gloutenay. Poursuivons avec la chronique Actualité religieuse. Nous nous entretiendrons ce matin avec François Gloutenay, journaliste à l'agence de presse Présence et animateur du volet Table ronde de l'émission Foi et Turbulence. François remplace ce matin notre chroniqueur régulier Philippe Vaillancourt, happé par un virus. Alors François Gloutenay, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors François, vous en avez parlé la semaine dernière à l'émission, mais revenons sur le sujet. L'enquête sur les partenaires de développement et paix continue de faire jaser, particulièrement le traitement réservé à l'organisme de femmes haïtiennes, Femmes décidées. Quelles sont les dernières nouvelles dans le dossier?
Ben, écoutez, le pire, je dois vous dire, je dois admettre qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le dossier. En fait, rappelons, si vous voulez, les éléments. Mmh. C'est une lettre que Marie-Ange Noël, la coordonnatrice de Femmes décidées, un organisme d'Haïti, a envoyée à Développement et Paix le 27 novembre dernier. Quand on a vu cette lettre-là, on a compris que Mme Noël répondait à une question que lui avait envoyée le directeur général de Développement et Paix, qui lui demandait « Pourriez-vous nous dire oui ou non ?» Pour une dernière fois, êtes-vous d'accord avec la légalisation de l'avortement en Haïti? Selon la réponse qu'elle allait donner à cette question-là qu'on lui posait une semaine plus tôt, tout ça pourrait des conséquences sur le financement qu'offre Développement et Paix à ce groupe-là. Donc, c'est un groupe qu'on finance à Développement et Paix depuis une vingtaine d'années. Mais là, on lui dit, écoutez, vous répondez par oui ou non à cette question-là, et selon votre réponse, vous aurez ou non votre financement. Et voilà la lettre que Marie-Ange Noël, la coordonnatrice, a envoyée le 27 novembre. Il dit, écoutez, je comprends pas votre insistance, vous me posez toujours la même question et je vais vous le redire. Nous, ici, on ne fait pas d'avortement. On aide des femmes qui sont violentées, qui sont abusées, des fillettes qui sont violées et on les aide à accoucher, on les aide, on les prend en charge, on les aide à avoir une meilleure vie par la suite. Alors, on parle pas de ces questions-là, nous, ici. Arrêtez de nous achaler avec ces questions-là.
Oui.
Alors, ben voilà. Et alors, depuis ce temps-là, ben, c'est lorsque on a sorti cette lettre-là, ben vous avez eu des tas de gens qui ont pris la défense de Femmes décidées en disant mais laissez-les tranquilles, cessez de les intimider, s'il vous plaît, donnez-leur du financement. Et parmi ça, les groupes qui l'ont fait. Vous avez des congrégations religieuses comme les Sœurs du Bon Conseil de Montréal qui ont elles-mêmes fondé
oui.
L'organisme en 1989, donc il y a 30 ans, Femmes décidées à Jacmel en Haïti. Vous avez eu d'autres groupes, par exemple le collectif féministe L'Autre Parole. Vous avez eu l'Association des religieuses pour les droits des femmes qui a pris position en disant « Laissez tranquille Femmes décidées, s'il vous plaît. » Ce sont des gens qui vivent vraiment ce que dit l'Évangile, c'est-à-dire de s'occuper des plus pauvres et d'être aux côtés des personnes les plus pauvres, et il n'y a aucun doute que ces gens-là, c'est effectivement ce qu'ils font. Mmh. Alors, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Alors, du côté de Développement et Paix et du côté de la conférence épiscopale, parce que c'est elle qui a demandé à Développement et Paix de lui poser cette question-là, ben, on n'a aucune réponse. On a tout tenté, on essaie d'avoir des nouvelles, on essaie de savoir si Marie-Ange Noël a bien répondu à la question qu'on lui a posée, et personne ne veut nous répondre. Du côté de Développement et Paix, c'est le silence absolu. Du côté de la conférence épiscopale, on répète que le cas de Femmes décidées fait partie de toute l'étude qu'on fait sur quelques 52 partenaires de Développement et Paix, dont Femmes décidées, qui ont été accusés, qui sont soupçonnés en tout cas de ne pas respecter l'enseignement social ou l'enseignement moral de l'Église catholique. Alors, depuis 2 ans, vous avez des groupes, une cinquantaine de groupes, là, qui sont sur une liste noire de groupes que Développement et Paix ne peut plus financer avec l'argent des catholiques rassemblés, par exemple, lors des campagnes carême de partage qui se tiennent chaque année pendant le carême. Alors, on n'a toujours pas le résultat de cette enquête-là. On fait une enquête sur ces 52 partenaires-là. Chacun a reçu des lettres, on lui demande de s'expliquer, et c'est ce que Marie-Ange Noël a reçu aussi comme lettre, mais elle a décidé, elle, de rendre publique sa réponse le 27 novembre dernier.
Parfait, donc à suivre, peut-être la semaine prochaine à l'émission, vous aurez d'autres développements à nous partager.
Ben, on l'espère, en tout cas, c'est un groupe tellement extraordinaire,
qui
travaille avec des gens excessivement pauvres, on n'arrive pas à comprendre cet acharnement-là. Ouais.
Autre sujet, François, la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, y est allée d'une mise à jour quant à l'application des lignes directrices sur la protection des personnes mineures contre les abus sexuels. Entre autres, la CECC y allait d'une déclaration au sujet de la publication des noms des personnes visées par des accusations crédibles qui n'ont pas été inculpées ni déclarées coupable.
Donc, ben oui, alors le 15 novembre dernier, en fait, c'est la conférence épiscopale qui a émis une déclaration. Elle est revenue sur sa grande politique qu'elle a adoptée il y a un an là, sur la question des abus sexuels par des religieux ou des prêtres. Et elle a rappelé encore que lorsque l'Église reçoit une plainte d'abus à l'endroit d'une personne mineure, la police en est informée aussitôt, sans aucune exception. Et elle répète aussi que tout délinquant présumé est écarté du ministère pendant l'enquête. S'il est déclaré coupable, alors toutes les mesures nécessaires seront prises pour s'assurer que le public et particulièrement les personnes mineures soient protégées de toute répétition. Dans bien des cas, lorsque la personne est déclarée coupable, elle doit être retirée du ministère et même laïcisée dans la majorité des cas. Mais il reste une question qui est importante, et c'est ça que la précision de la conférence épiscopale a fait le 15 novembre dernier. Plusieurs personnes font des manifestations, signent des pétitions pour que les diocèses, l'Église catholique au Canada, rendent publique la liste de tous les prêtres qui ont été déclarés coupables dans les 50 dernières années, par exemple, ou encore sur lesquels pèsent des accusations crédibles. Ils n'ont pas été déclarés coupables, ils n'ont pas eu de procès, mais il y a vraiment des victimes là, qui ont dit, il y a des accusations crédibles, je vous le dis, c'est passé. Et aujourd'hui, on respecte la parole des victimes, on les entend.
Oui.
Alors, la conférence épiscopale a dit non, il n'y a pas question, on ne pourra pas rendre public ces noms-là. Pourquoi? Parce que c'est une question qui relève de la protection de la vie privée. Aux échelons fédéral et provincial, la Charte canadienne des droits et libertés de la personne ne nous permet pas d'accuser quelqu'un comme ça spontanément sur la place publique sans que les autorités policières, par exemple, s'en chargent.
Oui.
Alors, c'est assez étonnant, c'est assez bouleversant d'entendre ça, mais ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard de la déclaration de la conférence épiscopale, vous avez un grand diocèse, celui de Vancouver. Vous avez Monseigneur l'archevêque Michael Miller qui a publié, lui, un gros document d'une douzaine de pages sur la question des abus sexuels dans le diocèse et qui nomme qu'il y a eu au moins 26 assauts sexuels sur des mineurs dans le diocèse à partir de 1950. Et non seulement il dit qu'il y a eu autant d'assauts, mais il nomme aussi les noms de 9 prêtres. Et il donne leurs photos. Majoritairement, ils sont décédés aujourd'hui. Mais on dit, voilà, vous le saviez peut-être pas, mais voici, il a été accusé, il a été condamné, il a dû payer tel montant, et voici les faits qui lui ont été reprochés dans telle année. Et on dit aussi, les gens ont aussi travaillé dans d'autres églises et tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, vous avez la conférence épiscopale qui dit on n'en parle pas,
oui.
On ne donne pas les noms, et là, vous avez un évêque influent, important, qui dit, voici, moi, je vous en donne 9 cas de prêtres avec photos, mais je suis conscient que je ne vous dis pas tout non plus. Il y a d'autres noms, sans doute. Et quelques jours après, et ça, c'est assez fascinant, c'est que vous avez un réseau de victimes qui est un groupe américain, mais qui a un chapitre là, ici en Ontario, qui a lancé, lui, son propre document et qui a nommé quelques 36 personnes, 36 prêtres qui, dans le diocèse de London, en Ontario, auraient abusé des gens, et parce que c'était pour eux, c'était des gens qui ont été accusés, là, d'une certaine manière, de ça, ou qui ont été condamnés aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le diocèse de London a immédiatement réagi en disant « Écoutez, je ne peux pas vous confirmer que l'ensemble des 36 noms sont bons, mais c'est pas mal correct », a dit Mgr Fabreau.
Oui.
Et là, c'est intéressant parce que là, encore une fois, on donne des noms de gens et on dit « Écoutez, à chaque fois qu'on nomme des noms de gens, il y a de plus en plus de personnes qui ont été abusées, qui vont de l'avant et qui dénoncent les cas qu'ils ont subis.
» François Gloutenay, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour ce retour sur l'actualité religieuse des dernières semaines. Merci beaucoup, François.
Merci, Mathieu.
Alors, je rappelle qu'on peut lire le journaliste François Gloutenay sur le site de l'agence de presse Présence au www.presence-info.ca. Restez avec nous, suivra la chronique musicale de Jonathan Guilbeault.
« Oh, my Lord, come carry me home. Oh, my God. » Gotten too weak for this heavy load. Oh my Lord, oh my God, oh my Lord. Carry a glad song wherever I go. Carry a glad song wherever I go. Singing, oh my God, oh my Lord, oh my God. God.
C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. On vient d'entendre un extrait de la pièce « Oh my God », une chanson qui ouvre le cinquième album solo de l'artiste américain Kevin Morby. Un album arrivé dans les bacs et sur les diverses plateformes en ligne en avril dernier. On en parle avec Jonathan Guibeau, homme de livres et de musique, qui nous présente chaque mois à notre micro, artiste, chanson, album, qui déclenche chez lui une réflexion sur la vie, sur la société, notre rapport à Dieu et au monde. Jonathan Guibeau, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Jonathan, tout d'abord, qui est Kevin Morby?
C'est un chanteur américain qui fait, pour faire vite, essentiellement dans la musique folk. Ses influences sont très claires. On pense avant tout en l'entendant à Bob Dylan, à Lou Reed. Mais il y a parfois du Springsteen qui perce ici et là.
Petite touche.
Oui, donc sa vraie carrière a commencé à New York. Puis il a déménagé à Los Angeles. Il a fait ses classes comme bassiste du prolifique groupe Woods. Mais jusqu'en 2013. Alors là, en 2013, il commence une carrière solo. Je l'ai découvert en raison de sa chanson en tandem avec Kate Le Bon, Slow Train, issue de son premier album. Et maintenant, c'est avec une grande attention que je suis chacune de ses offrandes.
Oui, et on le compare souvent avec Angela Olsen aussi, une autre artiste que vous aimez bien.
Que j'adore.
Jonathan Guibeau. Alors, le titre de ce cinquième album solo en 6 ans, donc toujours prolifique, ce cher Kevin Morby. Alors, le titre de cet album, c'est Oh My God, donc comme le titre de la pièce qu'on vient d'entendre. Jonathan Guibeau, est-ce qu'on peut parler ici d'un album concept?
Je pense que oui. Il y a une unité sonore très évidente, centrée autour du piano et de l'orgue, avec des accents gospel très clairs, qui rappelle d'ailleurs la période gospel de Dylan.
Oui.
Ça fait 2 fois de suite qu'on ose le parallèle. Hein? Le mois passé, c'était avec Kanye West, Jesus King.
Oui.
Alors oui, concept, il y a des bouts d'une chanson qui reviennent ici là sur l'album également, en boucle. Il y a une unité de thématique. On y parle de crise spirituelle, de rapport au divin sur à peu près chaque chanson. Mmh. Alors oui, un album conceptuel, pas au sens fort comme pouvait l'être The Wall de Pink Floyd, là, on s'entend. Mais au sens où on l'entend pour le Jesus is King de Kanye West, par exemple.
Oui. Et comment est-ce qu'on peut interpréter le titre de cet album, Jonathan?
Ben, c'est à la fois une exclamation et une prière. Hein? Rien de plus commun aujourd'hui que de texter OMG à quelqu'un pour manifester sa surprise ou son enthousiasme, surtout chez les jeunes.
Ouais.
Dans le cas de Morby, c'est pas très clair, mais sa surprise semble provenir d'un constat un peu accablant que « nothing is sacred », que rien n'est sacré ici-bas. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on est enfant, à ce que Morby pensait quand il était enfant, visiblement, quand on est enfant, il y a bien des choses qui deviennent sacrées extrêmement rapidement. Mais bref, le « oh my God » de Morby sonne d'abord comme une exclamation de désillusion, de vide intérieur. Mais c'est aussi une prière, hein? Parce que « Oh my God, oh my Lord » qui revient souvent. « Oh my Lord, come carry me home. Oh Seigneur, viens me ramener à la maison. » Il chante cela sous différents registres, parfois solennellement avec piano et voix, parfois en mode rock'n'roll, comme si, peu importe son état, c'était son désir le plus constant et le plus profond de faire porter sa prière.
Oui. Et quelle vision de Dieu et de la spiritualité émerge de ces chansons de Kevin Morby?
Je dois dire que si j'apprécie entendre dans ces chansons une prière qui me semble authentique, là, une volonté de prière, je suis quand même un peu agacé aussi. C'est une chose que de ressasser le paradis perdu de l'enfance, ce temps où tout était enchanté. Mais c'en est une autre de s'y vautrer de manière un peu puérile et de se complaire dans une sorte de lassitude de vivre un peu morbide. Et c'est ce que j'entends sur l'album de temps à autre et qui m'agace. Dans Hail Mary, par exemple, Morby dépeint sa posture existentielle en ces termes. « I'm still here nursing a beer ». Alors, je suis encore ici en train de prendre soin de ma bière. Et c'est de là que monte son hymne à la Vierge et lui dit qu'il ne veut jamais la blesser, qu'il veut mourir dans ses bras, le cœur crucifié. Cross my heart, hope I die in your arms. Bon, OK, mais j'ai envie de dire à Morby parfois, bravo, tu te reconnais faible, tu reconnais ta faiblesse. You want to be clean, pour reprendre le titre d'une chanson. Alors, bravo, tu reconnais ton besoin d'être sauvé par l'amour, mais ça manque un peu de virilité, ton affaire. Hein? Arrête de têter ta bière, lève-toi et marche, pour paraphraser l'Évangile. Bon, je suis peut-être un petit peu sévère, car oui, il y a des moments d'authentique louange, mais il y a aussi des moments où Dieu semble absent tellement le focus, c'est surtout le besoin de Morby de prier et le besoin qu'il y ait quelque chose comme un dieu pour lui répondre. En ce sens, le dieu de Morbi, c'est comme un peu un dieu de poche, un dieu bricolé.
Et qu'est-ce que vous entendez par dieu de poche, dieu bricolé, un dieu, en tout cas, c'est un dieu très personnel.
Ouais, voilà. Oui. Et d'ailleurs, je ne dis pas dieu poche.
Oh, oui, dieu de poche.
Dieu de poche. Oui. Alors, je veux dire par là que Morbi semble surtout au stade d'invoquer un dieu fantasmé, un dieu au contour épousant ses désirs et ses besoins avant tout. Ses besoins spirituels, faut bien le préciser, là, pas ses besoins matériels, car la recherche spirituelle de Morbi n'est quand même pas superficielle ou strictement matérialiste, là. Mais je ne me souviens pas d'un seul verset, d'un seul moment sur l'album qui donne l'impression que Morbi tente d'approcher le mystère d'un dieu qui est le tout autre. Par rapport à lui. En ce sens, quand Morbi chante qu'il veut être sauvé de lui-même, c'est un peu paradoxal car il reste très attaché à sa subjectivité. Mais bon, je m'écoute, là, vous parlez, Mathieu, puis je me trouve finalement un petit peu injuste envers l'album. Peut-être trop sévère ou trop théologien. Après tout, bon, c'est un album de folk. C'est pas un traité de théologie fondamentale. Mm-hmm. Puis c'est même un bon album de folk, là, disons-le. Pas aussi saisissant que ses deux derniers disques, Singing Saw et City Music, qui m'avait renversé. Mais quand même un album abouti où il y a de très bons moments. Je pense à Oh My God, Rock and Roll, ma préférée, où au lieu de l'apitoiement, on sent une bonne dose d'autodérision, Morbi se caricaturant en train de prier, c'est très efficace, je trouve. Je pense aussi à Nothing Sacred, All Things Wild, qui exprime bien l'amertume du passage de l'enfance à l'âge de la lucidité, ou plutôt à l'âge où le sacré ne peut plus être le sacré au sens païen, au sens enfantin, au sens magique, comme si le sacré résidait comme une essence dans les choses. Hein. S'il peut rester du sacré de l'enchantement une fois devenu adulte, il faut le comprendre autrement et le chercher ailleurs, hein, dans ce qui élève l'âme et fait pressentir un autre ordre de réalité, dans la rencontre, par exemple, dans ce qui nous dépasse, et non dans les objets ici-bas. Morbi ne s'aventure pas jusque-là, mais le fait qu'il recourt à la prière peut signifier que son désenchantement prend cette direction qui est finalement assez chrétienne.
Ouais. On va continuer à suivre Kevin Morbi. Alors, Jonathan Guilbeault, un grand merci pour votre présence en studio ce matin. Merci beaucoup.
Plaisir, Mathieu.
Alors, je rappelle que Jonathan Guilbeault est éditeur chez Novalis, blogueur sur le blog Les Carnets du Parvis et collaborateur aux pages débat de La Presse. Il commentait pour nous l'album Oh My God de Kevin Morbi, un album qui est disponible depuis le 26 avril dernier. On se laisse avec un extrait de la pièce Sing a Glad Song.
And I like where I'm living. There are many pretty people. We get to sit around or the chairs inside the steeple and contemplate the air and the prayers they throw up there and watch some come back down while others make it out. And when you get to feeling so bad, sing a glad song. And when get to feeling so sad, sing a glad song.
C'était votre épisode de Foi et Turbulence pour cette semaine. Un grand merci à mes invités, le père Ali Nameka, Olivier Lefébure, François Gloutenay et Jonathan Guilbeault. Merci aussi à Valérien Fournier et Daniel Fortin pour leur savoir-faire à la régie. Je rappelle que cette émission est coordonnée et produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.